La dernière session des Green Days. On va essayer de finir à 17h, comme il y a des trains, des derniers trains de la journée, 18h, tout ça. On finit à 17. Denis, tu as le challenge. Donc, dernière session, c'est un rêve pour moi. Ça fait, depuis que je suis tout jeune chercheur, gérer une session avec Denis Tristram, c'était un rêve. Et ben, aujourd'hui, je réalise mon rêve. Merci, Denis. Et puis, avec un titre ambitieux. Alors, ce n'est pas un talk que tu as préparé tout seul. Il y a Jean-Marc Nicot, avec qui tu as travaillé. On ne fait pas intervenir Jean-Marc, c'est un peu compliqué en audio cet après-midi, mais il est derrière, à l'affût et prêt à répondre aux questions. Hein.
Jean-Marc de Besançon, si vous le connaissez. Merci ben, beaucoup, en tout cas, pour l'organisation de ces journées. J'ai trouvé super riche. Je vais vraiment tenir l'heure parce que j'ai aussi un train. Je fais partie de la charrette, en fait. Donc, effectivement, ici, nous, ce qu'on a fait avec Jean-Marc, c'est qu'on a pris l'exercice, en fait, quasiment au pied de la lettre avec le GDR. Donc, on va vous présenter aussi un peu quelles sont les compétences du GDR. Et puis, on va ouvrir beaucoup plus la discussion vers la fin. Donc là, vous voyez que, je sais pas, vous avez vu le logo, là, du GDR, il passe vert. Donc, c'est pour ceux qui dorment, là. Alors, donc, j'appartiens aussi au collectif Eco-Info. Hein, il y a Anne-Cécile et ici, directrice du GDR. Je ne sais pas où elle est. Et alors, voilà. Donc là, c'est la présentation à deux voix, comme on vous a dit. La toute première partie, ça sera les contours et l'implication, en fait, de ce qu'on voit comme dans cette grande communauté de la RO. Et en fait, ROD, maintenant, ça s'appelle ROD. Parce qu'en fait, il y a le décision, le dé de décision dans le GDR. Et donc, on a essayé vraiment de regarder et de cartographier tout ce qui se passait au niveau du green. Et dans la deuxième partie, ben, en fait, on va ouvrir beaucoup et vous allez voir, ça va un peu, ça va permettre de prendre un take-home message un peu fort pour dans vos trains du retour. Ah non, c'est. Ben, du coup, je ne sais pas trop comment... les flèches, ça ne marche pas, du coup ? Là, faut, là ? Merci. Donc, alors, donc, qu'est-ce que c'est le GDR en peu de mots hein ? Donc, la recherche opérationnelle, vous savez ce que c'est, l'aide à la décision aussi, sans doute. C'est adossé à une société savante qui s'appelle la ROADF. Et ça regroupe une communauté, alors je ne sais pas exactement, mais enfin plusieurs centaines de chercheurs, 700 à 800 chercheurs, donc c'est assez gros. Et la ROADEF en tant que telle, donc société savante, c'est quelque chose qui est aussi adossé à une conférence, donc il y a tous les ans beaucoup, beaucoup de gens. Ça fait la deuxième année là, que les gens se retrouvent après le Covid. C'était à Rennes cette année, et il y a eu donc 638 participants, ce qui est quand même beaucoup, cette communauté. Et il y a eu 99 sessions, donc ça c'est Jean-Marc qui a un peu regardé ça dans le programme. Ça fait environ 400 présentations. Sur ces 400 présentations, en fait, on va voir combien il y en a qui traitent du thème et quelle est la dynamique du green dans cette communauté. Donc comme les autres GDR, en fait, les gens calculent beaucoup. Et donc évidemment, forcément, on se questionne sur l'usage du numérique, en fait, dans ce contexte-là. Donc la thématique environnementale, essentiellement, quand on regarde les thèmes, c'est la transition écologique, soutenabilité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses où les gens pensent que le numérique va être la solution du problème. On en a beaucoup parlé dans ces journées, ces Green Days, et c'est quelque chose de très riche. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est pris avec après des discussions avec la direction du GDR. Donc ils ont une certaine confiance dans l'action traditionnelle et la technologie. Et puis on a quelques personnes, mais pour l'instant c'est pas la majorité, qui essayent de porter un autre discours sur le green, avec un peu plus ce qu'on pourrait adosser à sobriété, frugalité. Et donc là c'est des gens peut-être qui ont une ambition plus forte par rapport aux enjeux, et forcément derrière, comme il y a une ambition plus forte, il y a une rupture par rapport à la pratique actuelle. Et ça c'est quelque chose qui questionne beaucoup la communauté. Donc vu de très loin... Il y a des axes thématiques, il faut structurer encore une fois toute cette grande, grande communauté. Et il y a des actions transversales, donc c'est des choses très, très classiques. C'est en général beaucoup d'optimisation discrète, et avec des gens qui font des choses théoriques, des choses plus pratiques. Il y a beaucoup d'industriels aussi dans cette communauté. Ils ont un club d'industriels très, très solide. Et puis, il y a des actions transversales sur l'apprentissage automatique. Ici, on en a vu beaucoup. D'ailleurs, la session d'avant, c'était une application où les gens font beaucoup d'IA. Évidemment, parce que l'IA, en fait, porte en elle des effets rebonds potentiels sur le nombre de gens qui utilisent l'IA de plus en plus et sur des modèles de plus en plus entraînés. Donc, il y a quelque part un double effet rebond dans cette thématique. Du coup, on la retrouve beaucoup. Et il y a aussi donc des choses autour de la robustesse et de l'incertitude. C'est aussi quelque chose qui est très prégnant à l'heure actuelle. Et puis, il y a quelque chose sur le développement durable et la sobriété numérique. C'est moi qui avais lancé ça il y a maintenant, c'est avant le Covid. Et en fait, je me suis vu, pas dépossédé, mais enfin en disant que ça a été recoupé par la direction avec une action très classique. Et puis des actions un peu plus, on va dire, ambitieuses, je ne sais pas comment les appeler. Donc moi, je me retrouve plutôt sur la partie, disons, un peu plus prospective. Et la partie de durable a été rattachée à des thèmes sur l'éthique. C'est aussi assez souvent le cas dans les communautés, en fait. On parle de RSE, et puis souvent, au bout d'un moment, le E est un peu oublié, quoi, Donc voilà, ça c'est des petits logos, je vais passer assez vite, qui illustrent un peu tous ces thèmes, ces actions transversales et ces actions de veille technologique. Donc en gros, c'est quoi le green dans la communauté dans ce GDR? C'est des actions, ce qu'on pourrait appeler, là c'est moi qui appelle ça les éco-gestes un peu améliorés, mais ce sont des actions qui sont individuelles. Le petit pas et les actions systémiques, ça a été repris à partir des présentations de la direction du GDR. Quelque part, c'est assez facile à réaliser à un niveau local, donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal. Il y en a plein, c'est depuis longtemps, il y a même des gens, il y a une dizaine d'années, qui déjà portaient les problématiques un peu de écologie. Puis il y a les actions systémiques, pardon, dont le périmètre là, c'est beaucoup, beaucoup plus large, forcément, et c'est beaucoup plus complexe à aborder, et bien sûr à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dimensions techniques qui sont aussi partagées avec des économique, social, et donc c'est forcément beaucoup plus difficile parce que dès qu'on bouge quelque chose, un peu l'ensemble vient. Alors là, j'ai fait avec Jean-Marc donc une catégorisation qui est un petit peu plus précise dans ces actions locales. Donc c'est en gros, on voit par exemple des gens qui font des programmations linéaires en nombre entier pour optimiser les intrants dans une production agricole. Donc pour qu'il y ait moins de polluants, des actions ciblées sur l'énergie, donc beaucoup. Donc là, on en a vu d'ailleurs un petit peu ici, qui est à cheval entre un peu cette communauté d'optimisation et cette communauté écologique. On a vu des exposés sur Data Zero, typiquement. Donc ils optimisent un petit peu l'énergie en prenant plus de green possible, plus de renouvelables possible. Il y a du recyclage, il y a des flottes de vélos en ville pour favoriser la mobilité douce, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'actions comme ceci qui sont ciblées sur des thèmes un peu plus serrés et disons des communautés un peu plus petites. Et puis il y a beaucoup d'optimisation traditionnelle, les gens peut-être un peu plus lents, mais ils parlent beaucoup d'économie circulaire, je crois qu'il y a des groupes de travail aussi là-dessus. Voilà, l'évaluation de nouvelles technologies aussi, pour y voir un peu plus clair. Et puis, on a des actions plus globales là-dedans qui impliquent des décisions. Et la vue un peu des gens, c'est peut-être d'avoir un groupe de spécialistes scientifiques qui permettent d'infléchir les politiques publiques, en particulier pour participer au débat. Alors, c'est vrai que c'est un peu des actions qui sont un peu lentes, mais ou des entreprises. Donc, on voit aussi, il y a un club d'industriels qui est fort. Donc, du coup, c'est une manière de porter un discours vers les industriels. Par exemple, pour les changements de mode service public. Donc, il y a les SNCF, par exemple. Il y a les tarifications, donc aide aux tarifications pour voir si une solution est rentable, comment elle pourrait être rentable, des propositions de normes nouvelles, des contraintes législatives, etc. Donc comment mettre les contraintes législatives dans les programmes linéaires, par exemple, ou dans les programmes non linéaires. Puis ensuite, on voit aussi un autre type d'action, qui sont des propositions, là, qui évaluent les risques. Donc typiquement, il y avait des choses au dernier congrès autour du modèle Wall Street de Meadows, donc qui interrogeait un peu ce modèle de collapsologie, ou des risques écologiques dus au réchauffement, donc comme des incendies ou etc. Et donc visant à maintenir un peu un service minimum en cas de pénurie des ressources aussi, typiquement. Donc on a vu un petit peu des problématiques au Green Days sur ces questions-là aussi. Et puis des changements beaucoup plus profonds qui questionnent les usages, avec des gens qui ont certaines positions pour ne plus utiliser, faire un peu ce qu'ils appellent le démantèlement, donc ne plus utiliser du tout d'énergie fossile ou vraiment le minimum. Les villes en transition, c'est aussi le territoire intelligent où c'est une thématique très très importante à l'heure actuelle, qui regarde les flux de matière, s'il y a des équipes comme ça à INRIA par exemple, Rhône-Alpes, ou des approches low-tech en rupture. Voilà. Donc là, c'est le paysage, en fait, on peut voir dans tout ce qu'on a pu voir les dernières années dans les congrès. Et là, vous avez vu, là, il y a donc un certain type d'action locale ou optimisation. Tout ça, c'est, on va dire, dans les compétences des gens. Et quelque part, il n'y a pas besoin de remettre en cause ces compétences pour pouvoir aborder les deux premiers. Item. Par contre, pour les autres, ça va demander quelque chose qui est beaucoup plus compliqué et il va falloir mettre en route des problématiques, on va voir, qui sont multidisciplinaires et qui sont un peu plus compliquées à mettre en œuvre. Donc, par exemple, là, c'est le spot sur le dernier congrès. On a vu qu'il y avait, on a regardé dans toutes les présentations, sur les 400 présentations, donc ça nous a sorti des mots-clés autour de la. Du green, on a rentré tout ça, donc vous voyez, agriculture, énergie, on voit beaucoup d'exposés autour de ces thèmes-là, un peu moins, enfin, climat un peu, éthique, etc. Et il y a 10% en gros, sur les 400 présentations, il y a une quarantaine de, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais ça fait 10% de la communauté qui s'intéresse à ça. Mais parmi ces 10%, ce qui était intéressant, c'est que la plupart, c'est quand même que des petits pas, c'est-à-dire c'est des actions locales, où, c'est les deux premiers items. Et il y a très peu de choses qui vont vers des choses un peu plus en rupture. Ça donne un peu une image de la dynamique de cette communauté sur le green. Voilà. Donc là, alors oui, ça, bon, c'est juste pour vous illustrer toutes les. Donc, si on fait une synthèse sur la présentation de GDR, là, peut-être on peut prendre une question ou deux de manière intermédiaire, mais en gros, c'est une communauté qui est bien armée sur le plan méthodologique et du calcul et de l'optimisation, donc, et l'aide à la décision. Donc ça, c'est les termes, tout ça, ça peut aider énormément à la transition, évidemment, ou à la porter quelque chose de plus green. Elle est centrée sur le numérique, donc ça, c'est une moins bonne nouvelle, parce que c'est quand même le numérique est partie du problème. Elle manipule beaucoup de données et fait beaucoup de calculs, avec pas mal de relations avec les entreprises. Ça, c'est un peu compliqué parce que les entreprises ont d'autres, enfin, doivent faire des profits aussi. Et elle est aussi tournée vers la société. Ça, c'est quelque chose de très traditionnel dans cette communauté. Et par contre, au niveau individuel, quand on discute avec les chercheurs, il y en a beaucoup plus que 10% qui ont déjà mis dans leur vie de tous les jours des changements alimentaires, et des changements sur leur mode de vie, sur leur mode de logement et sur le mode de transport. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de collègues qui se sont mis déjà en route sur quelque chose, mais qui ne mettent pas encore sur le plan professionnel. Alors maintenant, je vais donc passer aux deuxième partie de cet exposé, où je vais essayer d'élargir un peu le point de vue. Donc ça va être un peu plus polémique. Donc si on reprend les choses, on a donc ces actions, je les ai remises ici, c'est les mêmes que tout à l'heure, on a les actions locales, les actions plus d'optimisation traditionnelle, et puis les actions globales un peu plus systémiques, ensuite les actions visant à évaluer et anticiper les risques, et les changements systémiques. Et évidemment, ces actions-là, elles peuvent être mises, elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre, on peut très bien aborder l'une et l'autre. Et puis, je vais regarder maintenant plus précisément ce qui se passe justement sur ce vide qui concerne très très peu de gens sur le plan professionnel, environ 1%, à peu près, en tout cas sur les derniers talks de la ROADEF, hein, c'était 4 ou 5 talks sur 400, sur ces aspects-là. Donc c'était... Alors, si on revient pour quand même repréciser les enjeux, c'est là, je reprends le slide d'ailleurs à peu de choses près, c'est pas tout à fait le même, parce que celui-là, il n'est pas. C'était le slide du GIEC tout à l'heure, à Nord, enfin je ne sais pas, mais enfin c'est à peu près la même chose. Celui-là, il vient de Climate Action Tracker, donc ça nous donne l'historique du montée. Là, vous avez en ordonnée les gaz à effet de serre, les émissions, en gigatonnes de CO2. Et vous avez donc la montée, ça c'est au niveau mondial, et vous avez les scénarios qui sont donnés. Alors on sait qu'on a perdu totalement les scénarios du bas, on sait qu'on est déjà plus là-dedans, C'est dépassé. Et par contre, on a vraiment ce que plusieurs possibilités. On doit décroître ses émissions. On a des leviers. On en a parlé aussi dans les Green Days. Il y a beaucoup de leviers pour pouvoir faire ça. Faut savoir que là, pourquoi en fait il y a des intervalles d'incertitude. C'est en fait, suivant chacun des scénarios, on a du mal, surtout les scénarios les plus spéculatifs, on a du mal à vraiment les mesurer complètement, donc il y a un flou artistique autour de ça. Faut savoir que la plupart des solutions qui sont là-dessus imaginent des solutions techniques qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est-à-dire typiquement des captations de puits de carbone qui n'existent pas encore, mais dont on espère en serrant les fesses que dans 5 ans ça sera là ou dans 10 ans ça sera là. Mais en fait, il n'y a pas la solution technique pour aller dans les scénarios de décroissance en général. Hein. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Donc ça, c'est pour préciser l'enjeu, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des réchauffements. Alors, pareil que Anne-Laure, hein, avec toutes les précautions oratoires, je me concentre sur l'aspect du climat, c'est les Green Days, mais évidemment, le problème, et on est tous, je pense, on partage cette idée-là, que le problème est beaucoup plus vaste en fait en tant que tel, évidemment, sur la question de l'anthropocène et des activités humaines. Alors là, donc un autre slide que j'ai pas vu vraiment. J'ai regardé aussi. Donc là, j'ai pris sur Our World in Data, mais on peut le prendre un peu partout. On voit la répartition de CO2 des émissions par secteur d'activité. Eh ben, quel que soit, si vous prenez le Carbon 4, si vous prenez le Sheet Project, là en 2021, il y a eu une mise à jour de l'empreinte carbone des Français, même sur le ministère d'ailleurs. Alors ils ont des chiffres qui sont un petit peu, le ministère de la Transition écologique sont en deçà de ça, mais enfin bon, vous avez un peu le même genre de choses. Ben, essayez de trouver là-dedans le numérique, en fait on ne le trouve pas. Et c'est un des problèmes, c'est-à-dire que le numérique en fait il est partout. Vous pouvez voir... Il est pas là explicitement, mais il est partout. Et en gros, donc, on peut le voir. Alors, il y a aussi plein d'autres manières. Là, j'ai pris la mise à jour de Sheet Project, justement, là-dessus. C'est la part, dans ce diagramme-là, la part du numérique dans la consommation d'énergie primaire mondiale. Et on voit que, bon, vous voyez, en 2000, là, il y a des scénarios. Il y a des scénarios qui continuent un peu business as usual. Il y a des scénarios qui sont encore plus mauvais pour le climat. C'est-à-dire que la part du numérique augmente. Et puis il y a un scénario là-dedans, c'est un scénario un peu rêvé, une utopie qui est d'essayer de se dire on a atteint un niveau de développement qui est quand même déjà vraiment très bien et on a plein de services. Essayons de faire avec les services qu'on a à l'heure actuelle et sans en rajouter. Donc ça, c'est quand même, disons que ça pourrait être quelque chose qu'on met dans les contraintes des problèmes d'optimisation, typiquement. De pas dépasser une limite en énergie. C'est des choses qu'on sait faire assez facilement de point de vue mathématique. Alors en gros, donc, si on part du positif, il y a quand même beaucoup de choses positives dans le GDR, mais j'appelle ça « Hero for Green ». C'est-à-dire que c'est pas encore du « Green Hero ». C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est l'optimisation au service d'essayer d'améliorer un peu les pratiques, les productions. Donc il y a plein de positifs. Là, on a pris quelques exemples. Donc, on combat le surdimensionnement, mobilité plus verte, etc. On optimise les data centers. On a vu plusieurs exposés en ce sens. Là, l'agriculture, la décision sur des enjeux qui sont vraiment très complexes. Et donc, ça peut aider. Voilà. Mais là, l'idée, c'est que quel impact au final, ça, c'est un peu compliqué parce que j'ai rarement vu dans cette communauté des gens qui regardent vraiment quel est le coût des gros solveurs de calcul, par exemple, quel est le coût d'une solution numérique. Là, on en a vu un petit peu, ça commence. On a vu que c'était pas facile, il y avait des questions sur est-ce que tu prends en compte telle chose. Donc, on a vu que c'était quand même des problèmes, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Et puis on sait que prendre tout en compte, c'est pas possible. On va avoir des intervalles d'incertitude qui vont à un moment donné pas vouloir dire grand chose. Quand on additionne des incertitudes, ben on sait pas trop où on va. Mais en tout cas, c'est des questions qui ne sont pas posées. Alors ça, c'est sûr. J'ai bien cette photo là quand même. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire quelque part, on continue un peu à faire les pratiques comme avant, mais quelque part, ouais, il y a un peu le feu pas loin quoi. Alors, donc là, on a une nécessité d'ouvrir le débat quelque part, c'est-à-dire pour dépasser cette question d'optimisation. Et là, on est d'accord dans un peu à l'intersection de tous les GDR sur essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait dans nos communautés pour comprendre et choisir essayer de limiter les dissonances qu'on peut avoir ou comment faire vraiment beaucoup mieux. Alors on peut le faire à l'intérieur, nous on essaye, moi je suis en charge d'un groupe transversal dans le GDRRO et c'est quand même pas facile à faire vivre. On peut le faire aussi à l'extérieur, donc avec d'autres communautés, dans les GDR proches, hein, on a vraiment des GDR qui sont très proches et qui avec les gens qui ont les mêmes problématiques. Et on peut le faire aussi en appelant d'autres communautés. Par exemple, c'est Olivier tout à l'heure qui parlait de la communauté d'ouverture. Tu as cité le GDR Internet, IA et Société, mais il y a d'autres. Maëlle aussi ce matin a parlé d'ouvrir sur les sciences sociales. C'est un élément du débat, c'est absolument nécessaire, parce qu'on ne peut pas aborder ces questions systémiques tout seul, uniquement avec l'aspect scientifique, avec nos outils. On n'a simplement pas les bons outils. Alors, donc pourquoi l'ouvrir à d'autres communautés ? Ben, c'est simplement pour saisir le problème comme un tout dans toute sa complexité. Et alors, évidemment, l'aéro là-dedans, elle a une tradition multidisciplinaire, évidemment, parce qu'il y a des économistes. L'aéro s'applique depuis très longtemps à des questions d'économie, à des questions de production et donc du coup, elle est relativement bien armée. Il y a aussi un peu des gens qui font des sciences sociales. Mais c'est toujours guidé par un aspect très, très, très science dure, on va dire. Et puis alors, sur l'aspect de prise de décision plutôt que optimisation, eh bien, ça, c'est assez compliqué parce qu'on a... Il y a des choses... Enfin, il faut aller interroger la société civile, quoi, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment... C'est très compliqué parce que il faut, on voit bien dans l'adoption de changements fondamentaux sur la société combien c'est difficile d'aller voir les citoyens et de les écouter. Donc là je voudrais ouvrir quelques pistes. Donc en fait on cherche à comprendre des situations au service de la société et de les optimiser. Alors les idées nouvelles, je pense qu'on en a tous, on essaie de les faire passer. Et là j'ai trois niveaux d'essayer de voir comment faire diffuser ces idées nouvelles. Ces idées nouvelles, elles sont destinées vers le grand public, à la médiation classique, mais aussi vers les décideurs. C'est ce que ambitionne la direction du GDR, d'essayer de faire changer les choses au niveau des entreprises ou des pouvoirs publics. Mais il faut déjà que les hypothèses soient bien comprises. Or, les scientifiques, en fait, on fait des hypothèses, et pour pouvoir dire des choses un peu théoriques, ben, on simplifie, on fait de quelque chose qui est idéalisé. On se dit, bah, tiens, il y a telle hypothèse, et puis ça va nous simplifier les choses, mais quelque part, on va perdre on va s'éloigner de la réalité quand on fait ces hypothèses et quand on fait ces modèles. Donc ça, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut que les hypothèses qu'on fait pour avancer des idées soient vraiment bien comprises et bien explicitées, et qu'elles soient les bonnes, quelque part. Ensuite, il faut que le discours qu'on a soit écouté, et là c'est compliqué parce qu'on est dans une situation où la société va très vite, veut finalement des réponses extrêmement vite, alors que la science a besoin quand même un peu de temps pour établir une vérité scientifique quelque part. Donc ça c'est compliqué parce qu'à la fois c'est des contraires à des idées économiques, et puis la politique fait qu'on a besoin de réagir vite, et vite c'est un peu contraire avec, encore une fois, la vraie pratique scientifique. On a besoin de valider, de porter nos résultats à l'aune de tests, de changer un petit peu les choses et de revenir, etc. C'est comme ça que la science se construit, hein, Karl Popper, c'est la base de l'approche scientifique. Et puis on a aussi, on fait face à de la désinformation et des lobbies, à des choses qui sont simplement guidées par des intérêts particuliers, par exemple des grosses entreprises qui sont des producteurs d'énergie, qui n'ont pas envie tellement d'entendre qu'il faut arrêter tout carbone, et qui se disent, bah oui, mais là vous avez pris finalement une hypothèse qui n'est pas vraie. Enfin, et donc du coup, on a beaucoup de lobbies qui donnent des contre-discours qui ne sont pas forcément faciles. Pareil pour l'agroalimentaire, on nous dit des tas de choses, alors qu'on pourrait avoir peut-être une objectivité plus grande, etc. J'ai parlé des grosses tartes à la crème là-dessus, mais il y a beaucoup de désinformation un peu à tous les niveaux. Et ensuite, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que quelle est la liberté des valeurs lorsqu'on nous on fait de la science et qu'on essaye d'ouvrir le débat. Il ne faut pas que ce débat soit non plus trop loin de enfin, en tout cas, on fait de la science avec un certain type de valeurs. Et comme on a des valeurs, on aimerait bien que les résultats scientifiques collent avec ces valeurs. Et ça, c'est un peu pas une erreur, mais c'est un écueil. Il faut faire super gaffe à ce qu'on fait là-dessus. Et là, je voudrais alerter là-dessus. C'est-à-dire essayer de continuer à garder l'objectivité et la transparence des valeurs. C'est-à-dire, on a des valeurs, on a le droit, mais on doit les dire. On doit dire, voilà, moi, je porte ces valeurs, et puis et voilà le travail scientifique que j'ai fait. Les gens sont au courant, au moins, qu'on porte ça. Ils peuvent regarder est-ce qu'il y a des biais, éventuellement. Et puis encore une fois, là, je remets le truc sur l'information plus large que la technique pure. On ne peut plus maintenant aborder ces questions qui ont des impacts sociétaux uniquement avec la technique pure. Évidemment, l'université au sens très large, enfin, les chercheurs, enseignants-chercheurs, on se doit de rester au-dessus, de manière à pouvoir avoir un discours qui est entendable et qui est un discours sur lequel on peut compter. Ce n'est qu'à cette condition qu'on y arrivera, je pense. Alors ensuite, là j'ai parlé osons le débat, donc ça c'est un peu quelque chose que je porte avec Jean-Marc un peu. Alors Jean-Marc est responsable d'un groupe de travail traditionnel qui s'appelle Scale au sein du GDR RO. Moi je suis un peu plus libre de parole puisque j'ai un groupe transversal sur une question de société. Donc du coup je peux peut-être porter des idées un petit peu différentes, mais face aux enjeux, en fait, le sauvetage technologique, c'est-à-dire penser qu'il y a une solution technologique, on n'y arrivera pas. Alors, on n'y arrivera pas pour plusieurs raisons. Vous avez un peu une idée pour pourquoi on n'arrivera pas d'avoir une solution uniquement technique. Il faut que ces solutions qu'on propose, elles soient déjà faisables. Elles soient faisables d'un point de vue pratique. Ensuite, il faut que ces solutions techniques, elles soient à la hauteur des enjeux qui sont là, c'est-à-dire qu'une solution technique, on en a vu plusieurs, même là pendant les Green Days, il y a des solutions partielles qui ont amené quelques pourcents d'augmentation. Est-ce que quelques pourcents d'augmentation, c'est suffisant et bon, dans le débat actuel? Et puis, donc toutes ces questions-là, il faut qu'on les ait à l'esprit. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que de toute façon, même si on fait quelque chose, même si ça ne sert pas immédiatement, la mise en action, de toute façon, c'est une réponse qui est une réponse très, très positive au stress, parce qu'en fait, ça permet de limiter la dissonance qu'on peut avoir avec notre travail quotidien face à un enjeu qui est trop grand. Bah, au moins, on a quelque chose, on prend une partie de ça et on avance dans cette partie-là, ça déstresse quand même. Alors ensuite, oui, alors ça c'est autre chose, je n'en parlerai pas plus que ça en fait, on en a parlé tout à l'heure déjà. On peut convoquer les philosophes des années 70 de l'écologie politique, là il y a pas mal de gens avec qui on a discuté de ça et qui s'intéressent à ces questions, pour repenser un peu avec une autre approche, repenser les problèmes. Toutes les questions dont on parle là, elles étaient là il y a 50 ans. Le rapport Meadows, on vient de fêter, c'est 50 ans. Pareil, là je parle donc Ivan Illich, on en a parlé ce matin, on peut parler de Bernard Stiegler, qui est beaucoup plus récent, on peut parler de beaucoup d'approches qui nous viennent de l'écologie politique pour repenser les problèmes. Alors c'est des propositions philosophiques, mais elles sont quand même très très intéressantes et nous on essaye de repenser les problèmes scientifiques à partir de ces grilles qui sont beaucoup plus ouvertes en fait. Alors ensuite, je voulais quand même aborder avec vous quelque chose qui fâche. Par exemple, dans mon GDR, j'arrive pas à parler de ça vraiment facilement parce que ça fait tout de suite très peur à beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, de collègues qui sont en recherche de sens et qui parlent on parle de bifurcation. Hein, on en a parlé. Il y a des gens qui ont refusé des étudiants courageux qui ont refusé, par exemple, des diplômés des grandes écoles parisiennes, on en a parlé beaucoup, ou le boycott, tout ça c'est des questions, on a des collègues qui sont dans cette... il faut aussi arriver à les écouter, peut-être les accompagner, c'est de la force vive, plutôt que d'essayer d'en avoir peur et de les mettre sur le côté. Donc c'est vrai que c'est des positions très ambiguës, parce que par exemple quand vous avez des gens comme Total Energy qui sponsorisent en gros le congrès de la ROADEF et qui ont une invite talk là-dessus, ils ont un certain niveau de discours, faut accepter ça aussi. Donc il y a des gens qui disent il faut pas les écouter. C'est des positions qui existent aussi. Et là je terminerai là-dessus. Donc pour finalement proposer quel engagement on peut avoir pour répondre à ces questions justement de recherche de sens. Eh bien, si on pense qu'on a la responsabilité de faire quelque chose dans le, face à la crise, on peut choisir les sujets dans les appels d'offres et sur les types de financement qu'on a. Il y a beaucoup de sources de financement et on peut être en adéquation avec des sujets qui sont portés, on peut être d'accord avec les appels à projets. Il y en a plusieurs dans tous dans les instituts, mais aussi d'un point de vue à l'ANR, par exemple. On a aussi une manière de changer les choses et d'être en cohérence par rapport à la façon de conduire la recherche, c'est-à-dire prendre le temps, un peu plus le temps, changer les objectifs. On n'est pas obligé d'aller dans la performance, on peut aller dans la robustesse ou la résilience. On en parlait peut-être aussi à un moment donné dans les Green Days. Ça, je trouve que c'est des pistes qui sont tout à fait intéressantes. Et ensuite aussi, faire attention dans l'interprétation des résultats, c'est-à-dire que si on pense qu'une solution est bonne, il faut quand même rester scientifique jusqu'au bout. C'est-à-dire avoir des outils de mesure qui veulent dire quelque chose. Il faut bien les expliquer parce que ça s'applique jusqu'à un certain niveau de compréhension. Et l'engagement peut être totalement public, totalement multiple. On peut s'engager à différents niveaux. Et alors là, je parlais de ça. Bon, ben, c'est un peu c'est mon dernier slide. Je voulais quand même parler aussi de... Il y a eu des gens qui ont eu le courage d'affirmer un certain nombre de positions, mais qui finalement, ça n'a pas été très, très, très positif. Ils ont été une chercheure aux États-Unis qui a voulu poser le problème au début d'un congrès et qui, en fait, s'est fait exclure de son institut. Bon, donc, il faut avoir le courage de ça. Mais c'est vrai que, bon, il y a aussi, on peut parler aussi des combats qui ont été... Il y a aussi plein de combats comme Gandhi, comme les suffragettes, etc., qui ont été aussi très positifs dans toute l'histoire. Donc, on peut aussi penser qu'il y a des gens qui... Alors, j'aurais pu rajouter Eco-Info. Hein, j'ai mis scientifique en rébellion. Mais engagez-vous à côté. Il y a plein de gens qui... des collectifs où vous pouvez prendre une énergie très positive pour faire face à ces problèmes-là. Et voilà. Donc... Actuellement, bon, bah, disons que simplement je voulais un peu libérer la parole aujourd'hui. Rêver peut-être qu'on pourrait avoir un peu plus d'écho avec sur des questions qu'on n'entend pas trop à l'heure actuelle. Et puis voilà, maintenant vous pouvez, si vous voulez, poser quelques questions avec Jean-Marc aussi qui nous écoute.
Merci Denis.